Inter, le 18-20.
Et voici le téléphone sonne. La cuisine, est-ce une certaine idée du bonheur ? Sans doute, comment manier les saveurs ce soir pour ce dîner de la Saint-Sylvestre ? Aujourd'hui, il y a plein de façons de manger. Vous êtes plongé là actuellement dans les derniers préparatifs de ce réveillon du 31. Vous voulez d'ultimes conseils pour réussir vos plats ? Vous avez envie de parler gastronomie avec nous ? Des bons produits, de la production française, de ses difficultés ? Eh bien, appelez-nous 01 45 24 7000 pour vous répondre. Arnaud Daguin est là, chef cuisinier que vous entendez chaque dimanche sur France Inter dans l'émission de François-Régis Gaudry. On va déguster à 11h. Le standard, il est ouvert. Bien sûr, le site de l'émission, franceinter.fr.
Pierre Veil, le téléphone sonne.
Arnaud Daguin, bonsoir, merci d'être avec nous.
Bonsoir Pierre, bonsoir à toutes et à tous.
Dites-moi, pour un chef cuisinier, ce réveillon du 31, c'est un moment clé de l'année ?
Pour un cuisinier comme je le fus pendant 45 ans, forcément c'est un moment important. Et souvent, les cuisiniers en profitent pour marquer un peu le coup et pour montrer un petit peu, au-delà de ce qu'ils font d'habitude, monter d'un cran. Pourquoi ? Ben parce qu'en général, les tarifs qui sont pratiqués cette soirée-là le permettent. Et donc permettent peut-être des achats un peu plus luxueux, on va dire, sur des produits plus chers. Et puis, ils permettent aussi d'élaborer des menus un peu plus complexes, compliqués, en tout cas plus complets. Mais si vous me le permettez, Pierre, ce 31 décembre, je voudrais souhaiter une bonne fête au Sylvestre, d'abord, avant toute chose. Alors, pas seulement au Stallone, ni au chat de Titi. C'est surtout à la part Sylvestre de notre monde que je voudrais souhaiter bonne fête. Merci, les arbres. Merci pour tout ce que vous faites. Et j'espère que ça va continuer longtemps. Voilà, fin de la parenthèse Sylvestre.
Arnaud Daguin, quelle est l'ambiance là actuellement en cuisine vers 19h23 avant ce réveillon de la Saint-Sylvestre ?
Alors, chez les pros ou chez les particuliers ?
Alors, prenons l'exemple des pros dans un restaurant. Ah ben,
chez les pros, si t'es pas en place à cette heure-ci, t'es mort. Ouais. Voilà, c'est pas compliqué. La mise en place est faite. Ceci dit, c'est pas un exercice trop compliqué, le 31, même si on met la barre un peu haut. Pourquoi ? Parce que, a priori, tout le monde va manger la même chose. Hein, on va proposer un menu, et ce menu sera le même pour à peu près tous les convives. Et même si on en prend un peu plus que d'habitude, des convives, ce soir-là, si on sert un peu les tables ou si on essaye d'optimiser la soirée, c'est pas le plus compliqué. Moi, je me souviens que je redoutais beaucoup plus un service normal avec tous les clients à la carte plutôt qu'un service un peu lourd comme ça, mais avec tous les clients au même menu.
Vous avez un dîner prévu ce soir, Arnaud Daguin ?
Oui, on va
Alors,
faire.
Alors, dites-moi, qu'y a-t-il au menu ? Qu'avez-vous prévu ?
Le plat, ça sera un hommage à mon paternel, ça sera un magret de canard. Et ce magret de canard, je l'ai incisé à l'intérieur pour en faire une espèce de poche, comme ça, et je vais le fourrer avec quelques champignons et un petit peu de pommes de terre, et puis on va le faire rôtir comme ça et le servir avec son simple jus. Voilà, ça va être tout simple.
Arnaud Daguin, est-ce que les repas du réveillon de la Saint-Sylvestre ont changé ces 30 ou 40 dernières années ?
Oh, ils ont sûrement changé sur la forme des plats, mais ils n'ont pas changé sur le fond. Sur le fond, c'est quoi le dîner de la Saint-Sylvestre ? C'est une façon de clore l'année et de se mettre minable pour commencer la prochaine. Donc c'est en fait une obligation à commencer l'année qui vient sous le signe du Doliprane ou de l'Aspégique ou de l'Alka-Seltzer, voilà, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Mais je pense que la forme n'a pas changé. La cuisine évolue tout le temps, elle a évolué depuis le début des temps. Et le fait d'en faire un plus et beaucoup ce soir-là, bah, pour moi, ça reste quand même, enfin chez nous en tout cas, sous nos latitudes et dans notre civilisation, ça reste un petit passage obligé.
Au standard du téléphone sonne pour interroger Arnaud Daguin, Christine qui est à Paris. Bonsoir Christine.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de prendre ma question.
Allez-y.
Alors ma question concerne le foie gras.
Ah.
Il se trouve que je fais mes foie gras et que cette année j'ai essayé le foie gras de chez Picard que je trouve, alors je ne dois pas faire de pub mais enfin bon je pense que beaucoup de gens l'utilisent. Je pense que c'est un très bon rapport qualité-prix. Je précise que foie gras faisait 400 grammes et je l'ai cuit à la vapeur. Mais moi, contrairement à ce que préconisait Picard, je le cuis dans une terrine, donc extrêmement enveloppée de fines plastiques et de, et de, et de papier d'aluminium pour pas que d'humidité pénètre dans la terrine. Mais j'ai été extrêmement surprise parce que sur l'emballage, Picard précisait 2 cuillères à café de sel pour 400 grammes de foie gras. Et moi, ça m'a paru beaucoup.
Ouais, ça me paraît beaucoup
que
aussi.
Je l'ai même trouvé un tout petit peu salé. Alors évidemment, il est meilleur 2-3 jours ou 4 jours après la cuisson. Mais je voulais savoir combien de sel vous préconisez par kilo de foie gras. Et pour 400 grammes de foie gras, qu'est-ce que vous me conseilleriez?
Alors, prenez des notes, un papier, un crayon, Christine, Arnaud Daguin vous répond.
Oui. Oh, ça va être relativement simple. Depuis quelques années, je suis un peu l'ennemi du sel à outrance. Ce ratio de sel que vous venez de m'indiquer là, j'espère que c'est une erreur de typo. Ça me paraît énorme. Je vous conseille, quand vous faites du foie gras, de le saler très peu. Alors très peu, ça ne veut pas dire qu'on va peser pour 400 grammes. On va pas peser. On va juste mettre une petite pincée bien saupoudrée sur une face. On va le retourner. On va mettre une autre pincée bien saupoudrée sur l'autre, et ça suffira. Et pour ceux qui aiment bien manger salé, ben vous posez sur la table un petit pot de fleur de sel et chacun pourra comme ça l'assaisonner en sel, au moins à sa guise. Et pour le poivre, puisque le poivre aime le foie gras et réciproquement, je vous conseille de faire la même chose aussi, c'est-à-dire de ne pas le poivrer avant la cuisson, mais de mettre sur table un moulin à poivre dont vous donnerez quelques tours sur les tranches au moment de le servir. Voilà, peu de sel. On peut toujours rajouter du sel, comme disait André Guillaume, mon vieux maître. On peut difficilement en ôter quand on en a mis trop.
Arnaud Daguin, alors il y a plein de questions internet. Je vous les soumets sur le site de l'émission. Le téléphone sonne. Pierre à Caen. Comment faire un réveillon pas cher, disons 15 ou 20 euros par personne, entrée, plat, dessert? J'ai encore 2 heures pour faire mes courses.
Ça, c'est un cas désespéré.
Oui. On peut faire un réveillon pas cher.
Ça dépend pour combien de personnes. 15 euros.
15 ou 20 euros par personne.
Par personne, mais si c'est pour 2 personnes, ça va être compliqué. Si c'est pour 10, ça va être un poil plus simple. Mmh. Moi, j'irai tout de suite vers en plat, vers une belle volaille. Hein. C'est pas la peine d'aller chercher un énorme chapon, mais une belle volaille, un bon poulet jaune des Landes, c'est très bon. Et puis, on n'a pas besoin de manger énormément. Donc, il faut penser aussi qu'il vaut mieux avoir un tout petit peu de très bonnes truffes sur un petit peu de bon foie gras, par exemple, plutôt que beaucoup de mauvais foie gras et de truffes qui ont goût à rien. Voilà, il faut penser comme ça. Il faut penser en termes de ce qui fait vraiment plaisir. En fait, la cuisine, et c'est ça qui m'importe de dire un peu ce soir. La cuisine, c'est quelque chose qui est fait pour relier un peu tout le monde. Et du coup, c'est vrai que ces passages obligés, comme le réveillon, comme Noël, ou comme d'autres repas comme ça, qu'on se sent obligé de faire, ils peuvent présenter un peu le danger de vouloir en faire plus ou d'en faire trop, d'être trop festif, d'être trop luxueux. À mon sens, c'est déjà le fait de l'organiser qui est important, c'est-à-dire peut-être d'essayer de faire à la cuisine un petit peu ensemble. C'est pas la peine d'arriver... Quand tout est prêt, mettre les pieds sous la table avec une bouteille à la main, peut-être c'est mieux de se retrouver un peu avant et d'élaborer ce repas ensemble, chacun ayant emmené un petit peu quelque chose, avec chacun une petite idée en tête de ce qu'on va faire, de ce qu'on va montrer qu'on peut faire. Alors je sais que c'est moins facile que de recevoir, mais finalement, on s'aperçoit que ce qui est intéressant, enfin ce qui est passionnant même dans la cuisine, c'est l'échange, c'est la façon dont on peut justement partager quelque chose à ce moment-là. Donc ce que je vous conseille à tous, alors pour notre ami qui est un cas désespéré là, qui a 2 heures pour faire ses courses, il va se débrouiller comme il peut, il va mettre une volaille au four, il va acheter 3 Saint-Jacques, il va les faire snacker vite fait, il va essayer de trouver peut-être l'œuf de poisson fumé qui va bien, une jolie poutargue peut-être pour mettre... sur ces Saint-Jacques avec un peu de beurre fondu et ça va le faire, mais ça serait peut-être intéressant pour lui de se dire que tant qu'à prévoir un repas comme celui-là, ben, qu'il le prévoit vraiment et puis qu'il le fasse peut-être avec ses convives ou qu'il le fasse même tout seul, mais avant, en prenant le plaisir de ce que nous appelons en cuisine la mise en place, c'est-à-dire la préméditation et en ayant pensé un peu en amont. Hein.
Arnaud Daguin, vous parlez, voilà, être ensemble, se retrouver. Alors, on a reçu ce courriel de Julien, hein, qui est à Tours, et il nous dit « Véganisme, végétarisme, régime sans gluten, régime sans sucre, vit-on des guerres de religion alimentaire ?»
Oh, ça serait peut-être lourd de les appeler comme ça. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une inquiétude globale de tout le monde par rapport à sa santé et à la santé de notre planète. Ça, je le vois tous les jours. Et donc, dans tout ce que vous venez de dire, là, il y a des soucis qui concernent notre santé personnelle et puis il y a aussi les soucis qui concernent le fonctionnement de notre écosystème. Donc ça, c'est quelque chose qui, à cette époque-là, ne peut plus être passé sous silence et heureusement, pas mal de gens, dont nos paysans d'ailleurs, ont pris les choses en main pour que ça aille un peu mieux. Peut-être qu'ils ne vont plus suivre aveuglément les diktats d'une industrie agroalimentaire. Peut-être que nos paysans vont recommencer à se connecter avec le vivant, à faire des sols vivants et des produits vivants pour fabriquer des êtres vivants et des territoires vivants. Peut-être que c'est ça qui va se passer, c'est ce que je souhaite. Maintenant, le fait de ne pas manger d'animal ou de ne pas vouloir maltraiter les animaux, ce sont deux sujets différents. La façon dont on se nourrit est un souci peut-être de santé personnelle. Et puis la façon dont on voit notre rapport au monde et notamment au vivant, ça n'est un autre. Ce que je pourrais dire là, c'est de choisir convenablement ses convives. C'est pas la peine d'aller rassembler des gens dont on sait qu'ils vont se foutre sur la gueule dès le premier plat.
Voilà. Arnaud Daguin, Patricia Orléans, elle nous a écrit ceci. Marre de la volaille, que peut-on faire pour changer? Mais il y en a marre de la volaille. Elle dit, j'ai un budget 150 € pour 4 personnes.
Oui, écoutez, ce que vous aimez sera bienvenu. C'est le geste qui compte, encore une fois. Ne comptez pas sur moi pour vous prescrire. Je suis pas là pour faire des prescriptions. Simplement, rappelez-vous que nous sommes dans une époque et dans un pays où on a un choix absolument dingue de choses à manger. Et je trouve que ce genre de réflexion, marre de la volaille, c'est quelquefois à la limite de l'enfant gâté, quoi. Hein. Mm-hmm. Voilà. Rappelez-vous que ça fait pas si longtemps qu'on a tous ces choix devant le nez. Vous pouvez aujourd'hui manger ce que vous voulez. Vous pouvez même vous permettre de faire un réveillon entièrement végétal, si vous voulez. Pourquoi pas? Ou même végétarien avec un peu d'œuf et de crème ou de fromage.
Et ça va être bien.
Comment?
Ça va être bien.
Mais oui, toute cuisine est bonne, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'elle corresponde à la fois et aux attentes et au plaisir, ou en tout cas à la demande de plaisir des convives. C'est ce qui prime, c'est de faire plaisir aux gens qu'on traite, si vous voulez. C'est ça, en fait, le but du jeu.
Sarah est au téléphone avec nous, elle voulait participer à l'émission. Bonsoir Sarah, vous êtes sur l'antenne et Arnaud Daguin vous écoute.
Oui, bonsoir. Eh ben, déjà, je voulais remercier Arnaud Daguin pour son éloge de la Saint-Sylvestre qui pour moi représente la forêt, les arbres. Alors moi je suis paysanne, je suis maraîchère en agriculture biologique en Bretagne et ça fait 3 mois que tous les week-ends, parce qu'on a une saison clémente, ben moi, j'étais pas sur les ronds-points avec les gilets jaunes, même si je les soutiens, mais ça, c'est un autre sujet. J'étais dans la forêt du côté de Paimpont et il y a eu une saison comme jamais j'en ai vécu de ma vie, alors que je ramasse des champignons depuis très longtemps. J'ai ramassé des chanterelles, mais alors d'abord, ça a été les fêtes, puis ensuite des chanterelles jusqu'à la semaine dernière, des kilos de chanterelles et des pieds de mouton. Donc ça fait 3 mois que je compte pas les heures de promenade, donc c'est le plaisir de la promenade. J'ai même montré mes coins de champignons à certaines qui se reconnaîtront peut-être si elles écoutent le téléphone sonne ce soir. Et du coup, je vais mijoter ça en rentrant chez moi. Je les ai préparés en vue du repas du Nouvel An. Puisque ce soir, j'attends 13 personnes. Et du coup, j'ai fait des petits feuilletés aux champignons en entrée. Et après, moi, je suis végétarienne. Alors du coup, tout mon repas est composé de légumes, jusqu'au dessert, qui est un gâteau créole à la patate douce et au rhum.
Oui.
Et j'ai même eu, je me suis dit, tiens, j'ai une bouteille de gnôle à la maison, ajouté.
J'ai un souci, c'est que malheureusement votre téléphone il n'est pas très bon, vous êtes sur un portable, on n'entend pas très bien ce que vous dites, donc si vous pouvez poser une question un peu précise à Arnaud Daguin qui va vous répondre, qui vous a écouté, mais c'est la ligne est pas très bonne.
Ah ben, je voulais le remercier déjà pour son éloge de la Saint-Sylvestre. Alors, j'espère qu'ils ont entendu.
Alors, sur ce témoignage de Sarah, Arnaud Daguin.
Ah ben déjà, j'envie ses convives, moi, le feuilleté aux champignons ramassé par elle-même. Si ça, c'est pas une attention délicate et sympathique, alors qu'est-ce que c'est ça. résume l'esprit de ce repas-là. Voilà. On se donne à la fois du mal, mais à la fois du plaisir. C'est les deux à la fois. On va aller ramasser des champignons et on les sert dans un petit feuilleté. Quel bonheur, quoi. Et après, j'imagine que Sarah a choisi ses convives de façon telle qu'elle sait que ils n'attendront pas une débauche de viande ou de foie gras. Et elle est maraîchère, elle doit avoir des légumes absolument formidables. Et je suis sûr que son réveillon va être délicieux.
Arnaud Daguin, je profite de votre présence. Si je reviens sur l'année 2018, moi je me souviens d'une déclaration d'Arnaud Daguin. C'était sur France Inter et il a dit cette année, en 2018, nos agriculteurs gagnent aujourd'hui 350 euros par mois en moyenne. Les gens qui nous nourrissent, qui nous font boire des choses magnifiques, qui nous font manger des produits formidables, gagnent 350 euros par mois. C'est quoi ce scandale? Voilà comment a conclu Arnaud Daguin. Ce scandale, il va continuer en 2019, Arnaud Daguin?
J'espère que non.
Mais qu'est-ce qui permettrait de changer les choses?
C'est un peu 350 euros en moyenne, c'est exagéré. C'est pas tout à fait ça, mais on va pas revenir sur les chiffres maintenant. Mais en fait, ce que je voulais dire et ce que je continue à vouloir dire là-dessus, c'est qu'il n'y a pas plus important que la façon dont on se nourrit. Ce que tu manges te constitue, d'accord, et ce que tu manges dessine ton monde. À la fois, ça a un impact sur nous à l'intérieur de ce que nous sommes, et à la fois, ça dessine complètement notre environnement. Il est très important que tout le monde réalise, quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde, réalise que les premiers acteurs d'une résilience par rapport à tous les problèmes qu'on a aujourd'hui au niveau de l'environnement et de la santé publique, même de l'économie, dans plein de pans de l'économie nationale, tout ça est absolument lié à notre production alimentaire, en partant par les sols. Je pense qu'il est en train de se passer quelque chose d'intéressant. En ce moment, on voit, jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup de chapelles et de gens qui pensaient avoir la vérité, qui disaient il faut faire de la bio, c'est la bio et rien d'autre. Il y en a d'autres qui disaient c'est la conservation des sols, il y en a d'autres qui disaient c'est la nouvelle agriculture, la technologie numérique qui va sauver tout ça. Aujourd'hui, on a à peu près compris les enjeux fondamentaux qui sont ceux de l'alimentaire et de l'agriculture. Et je pense que tout le monde a intérêt et tout le monde va certainement converger vers des azimuts communs qui relèvent ces défis et qui adresse ces enjeux majeurs. Et c'est ça qui va se passer cette année 2009, je le souhaite en tout cas, et je ferai tout pour, et notamment avec mon association que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Pour une agriculture du vivant, et qui n'est pas une chapelle de plus, mais qui est simplement une plateforme, un endroit où on va essayer de réunir tout ce beau monde vers les mêmes azimuts, si vous voulez, et en essayant de garder le cap. Voilà.
Arnaud Daguin, c'est bien de dénoncer les scandales. Françoise est au téléphone. Bonsoir Françoise.
Ah, elle est tombée dans l'escalier.
Alice, oui, ça ne marche pas. Alice, bonsoir Alice.
Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir.
Allez-y, vous êtes sur l'antenne, Arnaud Daguin vous écoute.
Donc moi j'ai improvisé un petit réveillon pour 3 personnes ce soir et je suis allée fouiller dans mes placards et j'ai trouvé du confit de canard bio et local. Et j'aurais aimé demander à Arnaud Daguin comment l'apprêter au mieux.
Alors, le confit de canard, c'est par définition, j'espère que ce sont des cuisses.
Ce sont des manchons.
Ce sont des manchons. Ah, les manchons, c'est encore mieux que les cuisses.
Ah oui,
moi, j'adore les manchons. Alors, il y a une bonne partie de ces manchons qui est constituée par la peau, hein, du canard. Et ça, pour que ça soit vraiment bon, il faut que ça soit extrêmement croustillant. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aligner ces manchons de canard un peu dégraissés, mais pas trop, dans une plaque que vous allez mettre au four. Et ce four, vous allez le mettre en position grill, vous savez, avec la chaleur qui vient d'en haut. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez bien les surveiller pour pas qu'ils pincent, comme on dit en cuisine, c'est-à-dire pour pas qu'ils deviennent un peu noirs, hein. Il faut qu'ils dorent, qu'ils soient très croustillants, quitte à les retourner de temps en temps. Et c'est seulement quand ils seront bien dorés comme ça que vous allez les sortir. Et là, vous pourrez en agrémenter le plat de légumes que vous souhaitez. Alors pour moi, par exemple, le légume absolument formidable, et ça n'a rien d'exceptionnel, c'est tout à fait banal, mais c'est une légumineuse, c'est le haricot tarbé par exemple, le haricot blanc de chez moi avec la peau un peu fine, ça avec les manchons, un tout petit peu d'oignon, et si vous avez de l'oignon frais par exemple, ou une ciboule à émincer dessus au dernier moment, c'est absolument parfait.
un message d'un auditeur sur l'antenne qui nous a écrit, non, il nous a écrit sur le site de l'émission. Je vous le lis, hein, Daguin.
Allez.
Arrêtez le gavage, cet acte barbare à l'encontre des volatiles.
Voilà. Alors, ma réponse à ça, c'est que ce monsieur se trompe de combat. Mais on pourra en parler un peu plus. Mais je trouve moi aussi que l'industrialisation de l'élevage et donc du gavage des canards a fait beaucoup de mal à cette activité et qu'on devrait revenir à des pratiques un peu plus respectueuses de l'animal en question. Mais c'est pas le gavage en soi qui est irrespectueux de cet animal. Si ce monsieur faisait un peu d'éthologie et donc s'il étudiait ce que c'était qu'un canard, il s'apercevrait très vite qu'en fait, la maltraitance la plupart du temps dans les élevages de canards, c'est pas pendant les 15 jours où on les gave, c'est surtout parce qu'on les confine et qu'on les empêche de s'ébattre et qu'on leur enlève l'accès à l'eau. Donc, avant de vouloir donner des leçons aux gens qui élèvent des animaux, intéressons-nous aux animaux en question. Si ce monsieur savait ce que c'est un canard en liberté, eh ben, il verrait que ces canards, ils bouffent des écrevisses, ils bouffent des trucs absolument incroyables dans leur jabot et que c'est pas un tube à inox qui va les maltraiter. En revanche, les mettre dans une épinette et les obliger à rester confinés pendant 10 jours, ça, c'est vraiment de la maltraitance et il faut plus que ça arrive.
Voilà, Françoise, qu'on a essayé de joindre il y a quelques instants. Elle est là, elle est en ligne avec nous. Bonsoir, Françoise.
Bonsoir, l'équipe. Bonsoir, monsieur Daguin.
Bonsoir, Françoise.
Je vais vous faire part de mon petit réveillon. Je suis seule. Je vais me faire plaisir sans dépenser beaucoup d'argent. Je vais me faire des œufs brouillés avec un petit peu d'épluchure de truffe dedans. Oui. Et puis des petits bouts de pain grillés, mais pas trop grillés, juste un peu chaud, un peu doré, mais pas trop. Ensuite, comme je suis en Corrèze et que nous avons un plat mythique pour les paysans qui est un étouffe chrétien, c'est de la pomme de terre râpée qu'on fait cuire à la poêle avec un peu d'ail, de persil, dans le sein doux, c'est pas très bon pour les hanches, mais une fois par an, on y a droit.
Mais oui, mais
ensuite, il y aura une petite salade de frisée, bien arrosée de d'huile de noix, avec un petit peu de roquefort, tout petit peu, et un tout petit peu de pomme. Et après, un fromage blanc arrangé, et des fruits, car je n'aime pas le sucre. Voilà, j'en aurai pour moins de 10 euros. Mon petit Bergerac blanc sec à côté, j'en ai pour moins de 10 euros. Et je ne suis ni végane, ni végétarienne, mais c'est simplement un petit repas.
Il est génial, votre réveillon, ma chère. Il est absolument formidable. Ouais, et bien, si j'étais pas loin, ben j'arriverais. Est-ce que vous savez faire les œufs brouillés lisses?
Oui, ben, j'essaye. C'est pas toujours réussi, mais je m'en fous. Avec un peu de truffe, de toute façon, c'est toujours.
Ah, oui, ça va être bon. C'est sûr.
Voilà, ça va être bon. Et je vous souhaite à tous un très heureux réveillon et une très bonne année de
mai. À vous aussi, et félicitations, parce que c'est sans doute le plus joli menu que j'ai entendu, là.
Françoise, bon réveillon, merci d'écouter France Inter. Mais ce menu que vous venez de nous donner sur l'antenne, c'est le résultat d'années de recherche, de travail, de passion pour la nourriture, pour les produits, pour les bons produits?
Pas le moins du monde. Je fais des confidoires, je fais des pâtés, je fais des crêpes, j'habite en Corrèze, alors vous imaginez, c'est quand même le pays de la bonne bouffe.
Bien sûr.
Mais je suis une gourmande. Demain, je vais me faire un bon potage avec du jarret de veau. Et puis après le jarret de veau, il y aura une salade avec des barbes de capucin et un tout petit peu de foie gras dedans. Et puis voilà, la vie sera belle.
Formidable. Mais dites,
c'est dommage que vous soyez toute seule quand même, hein, parce qu'avec des menus pareils, vous auriez un succès fou. Hein.
Mais vous savez, ma table a un succès fou, mais je trouve qu'en ce moment, je suis grippée, que je fais la gueule à tout le monde, parce que j'ai la tête comme un chaudron.
Oui.
Ben voilà, donc je fais des choses simples pour essayer de... Mais parce que après les antibiotiques, il y a des choses qui n'ont pas beaucoup de goût. Alors j'essaye de trouver des choses qui me fassent plaisir.
Françoise, je vous souhaite que très vite cette tête comme un chaudron disparaisse.
Régalez-vous bien et tous nos voeux.
On va aller au standard. D'abord un courriel pour vous, Sylvie de Rambouillet. Je voudrais, Arnaud Daguin, une recette de moelleux au chocolat facile à faire pour le petit déjeuner tardif demain.
Ah là, je l'ai pas en tête, hein. Ça va être compliqué pour les proportions, mais franchement, me demandez ça à moi alors qu'on a tout Google pour soi, franchement.
D'accord. Bien, voilà, une façon de ne pas répondre, mais vous avez raison, c'est vrai, on peut trouver ça sur Internet.
Je ne vais pas prendre le risque de donner des proportions erronées. Et puis, c'est vrai que le fondant au chocolat, c'est très très bon. Mais vous avez sûrement des recettes de mon copain Conticini ou de Pierre Armé qui traînent sur Internet.
Guillaume, bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Une recette, un conseil, Arnaud Daguin est là.
Alors, c'est deux recettes de son papa. C'était la papillote foie gras Saint-Jacques.
Ah oui.
Je ne m'en rappelle plus, malheureusement, comment on l'a fait exactement. J'aimerais la refaire.
Ouais.
Et là, il a dit au cours de l'émission, il a parlé d'un magret ciselé. Et incisé, le pauvre.
Le pauvre.
On n'aurait plus rien à manger.
Alors, la papillote, mon cher. La papillote, vous savez, vous doublez le papier aluminium, d'accord, vous en faites un grand rectangle, et sur la partie inférieure de ce rectangle, vous posez une escalope de foie frais que vous avez fait poêler sans le cuire, hein, juste coloré,
d'accord,
vite fait,
okay,
à peine salé,
ouais,
poivré,
ouais,
et
ouais,
vos Saint-Jacques que vous avez escalopés à 1 cm à peu près, crus.
Oui.
D'accord.
Oui, oui,
voilà.
Oui.
Ce que je vous conseille, c'est de récupérer le peu de graisse qu'il y avait dans votre poêle quand vous avez fait poêler vos escalopes, d'y mettre un trait de bon vinaigre que vous aimez bien. Donc ça peut être un vinaigre de cidre ou un vinaigre de Jerez.
Oui.
Et puis vous le faites juste frémir un tout petit peu dans ce grain et vous arrosez vos Saint-Jacques avec ce mélange. Et puis, là-dessus, vous allez mettre une julienne fine de légumes. Je vous conseille le poireau. En ce moment, ils sont parfaits, les poireaux d'hiver. Hein. Juste le blanc du poireau ciselé. Alors là, pour le coup, ciselé en julienne. Et vous le posez cru là-dessus, puis vous refermez votre papillote. Et c'est 5 minutes de four très chaud, pas plus. Hein.
Voilà,
quand elle est gonflée, elle est cuite.
Voilà, je me rappelais pas ce que la julienne de voilà qui avait en plus la julienne, je me rappelais pas de ça. Voilà.
Merci Guillaume.
Et son magret incisé.
Alors le magret, c'est le fameux magret fourré qu'on faisait à l'hôtel de France. Donc
voilà.
Il faut attaquer avec. Alors déjà, il faut le bon couteau. C'est un filet de sole en général. Hein. C'est un couteau assez long et assez étroit de lame. Et on attaque en posant la peau du magret côté planche, donc la chair en l'air. Et on attaque le magret par son talon, c'est-à-dire le côté le plus épais. On est d'accord? On rentre le couteau là-dedans en suivant le plan de la planche pour ne pas le percer, en étant bien horizontal. On incise un petit peu par à-coups à droite et à gauche pour faire une poche à l'intérieur de ce magret. Et ensuite, on le farcit avec ce qu'on veut. Et puis, on le fait cuire comme un magret normal, c'est-à-dire d'abord sur la peau pour la faire fondre, puis dorer. Puis, on le retourne dans sa graisse un peu chaude. Et s'il y a besoin, on le finit au four. Mais normalement, à la poêle, ça suffit.
Question Internet. Merci beaucoup, Guillaume. Il y a beaucoup de questions. Il faut qu'on vous quitte. Bon réveillon. Question Internet. Ce soir, on va boire du champagne. C'est Maurice qui se trouve à Strasbourg. Il nous dit, on va boire du champagne. Le champagne dans des flûtes, est-ce obligatoire? Et si oui, pourquoi?
Alors moi, je ne bois pas le champagne dans des flûtes.
Ah voilà.
Parce que mon grand nez m'empêche de le boire comme il faut. Et il m'oblige à un torticolis. Je ne le bois pas non plus dans des coupes, figurez-vous, parce que même si elles ont été ces coupes de champagne moulées sur le sein de je ne sais plus quelle courtisane, je ne sais plus si c'était la Pompadour ou on me pardonnera cette inculture, mais je le bois dans des verres à Bordeaux, tout simplement, ou des verres un peu cheminés, comme ça, parce que j'aime bien... pouvoir le faire un peu tourner, lui enlever 3 bulles si j'ai besoin.
Mais c'est important, les bulles, c'est grâce aux flûtes qu'on peut savourer les bulles
justement,
du champagne.
Moi je trouve que c'est important de pouvoir les doser comme on veut. Rappelez-vous, peut-être vous êtes trop jeune, et moi aussi sans doute, mais autrefois les dames avaient des petits fouets à champagne. Il y a d'ailleurs des objets absolument magnifiques qu'on peut retrouver au marché aux puces aujourd'hui quand on cherche un peu. Ce sont des petits fouets qui sont rétractables, comme ça, en argent. Souvent, avec lesquels les dames éventaient au moins leur première coupe de champagne pour ne pas avoir trop de bulles au début. Alors maintenant, on a fait beaucoup de progrès dans la vinification. On a des bulles qui sont absolument soyeuses, très très fines, sur lesquelles on n'a plus besoin d'intervenir la plupart du temps. Mais il n'en reste pas moins que j'aime bien faire tourner mon champagne dans un verre et du coup, je le sers dans des verres à vin. Voilà.
Julien est à La Rochelle et il écoute le téléphone sonne. On est très content, on est très fiers de l'avoir avec nous. Julien, vous êtes sur l'antenne.
Oui, bonsoir. Très bonne année à France Inter et à tous les auditeurs. Et merci de la qualité de vos émissions. Toujours au rendez-vous. J'avais une question concernant les saveurs qui pouvaient se marier ensemble. On connaît la pistache qui va très bien avec la framboise, notamment pour les macarons. Aussi la fraise qui va très bien avec le champagne, pomme cannelle. Est-ce que vous avez d'autres idées ou d'autres choses, de saveurs qui se marient très bien l'une avec l'autre, que je ne connaîtrais pas, il doit y en avoir beaucoup, mais des choses qui pètent vraiment en bouche.
Les saveurs qui se marient bien.
Oui, voilà. Mais il faut pas oublier qu'il y a pas seulement les saveurs ni les arômes, il y a aussi les textures et les consistances. Là, vous avez parlé de macaron, par exemple, et la texture du macaron est beaucoup, et pour beaucoup dans son succès et dans le succès de cette alliance. Alors, étonnamment, je vais vous faire une réponse qui va peut-être pas vous satisfaire beaucoup, mais il y a des associations comme ça qui semblent fonctionner la plupart du temps et qui, justement, sur un plat donné, ne fonctionnent pas si bien que ça. Et il y en a d'autres qui paraissent complètement bizarres, si vous voulez, et qui, elles, dans un contexte donné, sur une consistance et sur un produit, elles fonctionnent très bien. Je pense que, et peut-être que cette réponse va pas vous satisfaire, mais pour trouver les bonnes associations ou celles qui vous plaisent, en tout cas, il faut en faire tout le temps. Il y a des choses qui paraissent tomber sous le coup du bon sens, et puis il y en a d'autres qui paraissent un peu bizarres, un peu exotiques, un peu étonnantes. Faut pas avoir peur quand une idée vous vient devant deux produits, et si vous avez envie de les associer, il faut pas avoir peur de le faire, il faut juste essayer un petit peu. Nous, en cuisine, on a l'habitude de goûter des choses ensemble ou l'une après l'autre très vite. C'est comme ça que les associations se font. On a l'habitude de goûter, par exemple, une mise en place de dessert juste après avoir goûté du salé ou inversement. Hein. Et c'est souvent comme ça que viennent les idées, ou en tout cas, a posteriori, l'envie d'associer deux choses qu'on n'aurait pas associées immédiatement. Quoi. Voilà. Donc, je ne vous ai pas répondu et à la fois je vous ai répondu.
Arnaud Daguin, une question de Sylvain de Bordeaux. Il nous écrit sur le site de l'émission: les saumons en Norvège ont des poux. Doit-on continuer à en acheter? Peut-on acheter le saumon d'Écosse? Ce sont des saumons d'élevage qui sont touchés?
Alors, tous les saumons qu'on mange aujourd'hui, à l'exception de ceux qui sont vraiment stipulés comme sauvages, sont des saumons d'élevage. Le fait que les saumons aient des poux, moi, ça me rassure un peu.
Ah bon?
Parce que ça veut dire qu'on ne met plus les produits qui sont censés les décaniller.
Ah oui, d'accord.
Le pouls du saumon, on s'en fout un peu. On n'est pas censé le bouffer. Voilà. Mais il faut savoir que aujourd'hui, la pisciculture est en train de prendre un essor formidable et on peut comprendre pourquoi, puisqu'on a tellement tapé dans les réserves halieutiques qu'on est obligé de produire les poissons plutôt que de les prélever. Le fait que de dire Norvège ou Écosse, ça ne veut rien dire du tout. Il y a de très bons élevages en Écosse et de très bons élevages en Norvège, et il y a des élevages de merde en Écosse et des élevages de merde en Norvège. Je suis désolé d'en parler comme ça. Mais c'est vrai que là aussi, hein, comme beaucoup d'autres produits, c'est intéressant de se pencher un petit peu sur la façon dont ces bestioles sont nourries, qu'est-ce qu'on leur donne à manger. Moi, je préfère un saumon qui a des poux et qui mange sainement qu'un saumon qui n'a pas de poux et qui bouffe des bouts d'épuration, par exemple.
Bernard, bonsoir Bernard.
Oui, bonsoir.
Vous êtes à Saint-Laurent de Nest, c'est ça?
Oui, c'est ça.
C'est près de quelle ville? Quelle grande ville?
C'est dans les Hautes-Pyrénées, vers Lannemezan, si vous voulez.
Eh bien voilà, j'ai pris un cours de géographie. Arnaud Daguin vous écoute, Bernard.
Oui, bonsoir Monsieur Daguin.
Bonsoir. Je
souhaite depuis un moment avoir une lecture qui me permette de comprendre les principes de cuisine et par la suite de pouvoir improviser sans forcément avoir des recettes toutes faites. Mon souhait, c'est ça. C'est
On va
d'avoir
vous
quelque chose d'assez clair et facile à lire, mais qui explique les principes de cuisine de manière à pouvoir improviser par la suite.
Alors, ce bouquin-là,
conseil de lecture.
Ce bouquin-là, à ma connaissance, il n'existe pas encore. Hein, il n'a pas été écrit. La plupart du temps, on passe par les recettes pour transmettre la cuisine, et je le déplore, moi aussi. Puisque pour moi et pour beaucoup de cuisiniers, enfin vous savez que la cuisine, ce ne sont pas des recettes. C'est Alain Chapelle qui avait dit ça Le premier, enfin en tout cas c'est le premier que j'ai lu qui a dit ça. Ce que je vous conseille, c'est de vous plonger un petit peu dans les vieux bouquins de cuisine de la collection, je crois que c'était Stock, où Michel Guérard, Alain Chapelle, Paul Bocuse et les autres avaient étalé leur savoir-faire. Alors évidemment, ça sera des recettes, hein, vous n'aurez pas ces principes après lesquels vous courez, mais c'est quand même suffisamment éclairant pour comprendre ce qui prévaut dans chaque recette en termes de principes. Il y a un bouquin aussi, si vous arrivez à le trouver, et là je vais prêcher pour mon paternel, qui avait écrit dans les années, au début des années 80, un bouquin qui s'appelait « Le nouveau cuisinier gascon » et qui est assez didactique à cet égard. Mais bon, malheureusement, ça fait longtemps qu'il est épuisé. Il va falloir que vous le trouviez soit sur Internet, soit chez un bouquiniste.
Dernier appel. Il y a eu beaucoup d'appels pour vous, Arnaud Daguin. Hein. C'était bien.
Tant mieux.
Cassandre à Ajaccio. Bonsoir, Cassandre. Est-il là? Eh bien, il n'y a personne sur l'antenne. Cassandre, une fois, deux fois, il nous écrivait, on a des oursins en Corse, on les mange très simplement. Est-ce qu'il y a des recettes pour les cuisiner?
Alors, je ne conseille pas de cuisiner l'oursin. Hein. L'oursin, il se pose sur quelque chose, et un excipient. Et ce que je conseille de faire, enfin, par exemple, c'est de faire cuire des pommes de terre un peu fermes, de type charlotte, par exemple, et de les faire cuire dans leur peau, d'accord ? Puis de les peler après cuisson, de les couper en deux et de poser délicatement quelques coraux d'oursin sur chacune des demi-patates. Vous allez voir, ça marche très bien avec tout petit peu de beurre ou une goutte de l'huile que vous préférez, et c'est un vrai bonheur.
Arnaud Daguin, c'était un plaisir de vous recevoir. Il y avait plein de questions encore sur le site de l'émission. Par exemple, on nous demande, on peut trouver des vins festifs mais pas ruineux?
Ah oui. Il y a de la bonne bulle partout. Allez voir du côté de la Loire, vous allez voir.
On vous retrouvera bien sûr sur France Inter l'année prochaine dans On va déguster avec François-Régis Gaudry. C'est le dimanche à 11h. Arnaud Daguin, merci beaucoup et bon réveillon.
Merci à tous et bon réveillon à toutes et à tous.